Suivez le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours en direct sur Radio Territoria. Bienvenue sur le 84e congrès HLM depuis le stand du gouvernement en direct pour une émission consacrée à la démarche éco-quartier, un véritable atout d'ailleurs, on va le voir, pour la redirection écologique des territoires. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux personnes sur ce plateau. Florian Berco, bonjour.
Bonjour, merci de l'accueil.
Mais vous êtes le bienvenu, vous êtes le maire de Laval et président de la commission nationale éco-quartier. Et puis à vos côtés, il y a Maxence Moroteau, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes sociologue, urbaniste, et vous travaillez notamment sur le programme de renouvellement urbain, et notamment à Miramas, c'est ça, depuis 2015.
Exactement. Okay.
Bienvenue à vous. Merci. Et puis, vous en avez l'habitude, pour chacune de ces émissions, eh bien, vous avez la possibilité, si vous nous écoutez en direct, d'interpeller directement nos invités par le biais de questions que vous posez. Et puis, avec Hélène Parmentier, bonjour.
Bonjour.
Eh bien, on fera le point tout à l'heure, en seconde partie d'émission, sur les différentes questions qui vous auront été posées. Alors, comment concilier les défis de la transition écologique et sociale, notamment dans les quartiers prioritaires qui sont particulièrement impactés par le dérèglement climatique? La démarche éco-quartier permet aux élus et porteurs de projets de quartiers prioritaires de disposer d'outils opérationnels pour faire face justement à ces différents défis, améliorer la cohésion sociale et le cadre de vie des habitants, tout en favorisant la protection de la biodiversité, la décarbonation et la résilience du quartier face aux effets du changement climatique. Cette première question, elle s'adresse à Florian Berco, maire de Laval, président de la Commission nationale éco-quartier. Vous êtes président de cette commission nationale. En quoi la démarche est-elle particulièrement adaptée aux enjeux de transition écologique que concentrent l'ensemble des projets de renouvellement urbain?
Déjà, c'est une démarche qui a plus de 10 ans d'âge et donc qui a un retour d'expérience et beaucoup de territoires saluent la démarche. C'est important de parler de démarche, c'est que c'est une méthode de la fabrique de la ville pour toutes et tous et qui, effectivement, avait, il y a plus de 10 ans maintenant, poser la question climatique, de la résilience, du réchauffement climatique comme un préalable pour mieux fabriquer la ville et se poser des bonnes questions. Aujourd'hui, c'est presque devenu la norme. On pourrait se demander quelle est l'utilité de ce label. C'est qu'il faut s'attaquer encore à davantage de quartiers. Ce que je retiens de la démarche et son renouvellement il y a 2 ans, c'était d'allier à finalement l'urbain et l'humain. On sait que dans les quartiers, prioritairement les quartiers populaires, c'est comment la fabrique de l'urbain façonne, améliore la vie au quotidien des hommes et des femmes qui habitent, et donc pose la question de comment le logement est associé à côté de lieux d'activité ou comment les mobilités décarbonées sont, les modes de déplacement sont renforcés pour passer d'un quartier à un autre. Bref, c'est toute cette démarche éco-quartier qui apporte ces questionnements. Et ensuite, à chaque territoire, à chaque élu, d'apporter les réponses qu'il le souhaite dans son écoquartier. Donc ça a beaucoup de sens, puisqu'on sait que les habitants des quartiers populaires sont les premières victimes du réchauffement climatique. On ne peut pas y répondre simplement en isolant des passoires thermiques. Il faut aller bien plus loin et regarder finalement les usages, comment on vit dans ces quartiers-là et comment on peut y répondre par des solutions qui vont bien plus largement que la rénovation urbaine ou la rénovation bâtimentaire.
C'est une démarche qui date de 10 ans, vous le disiez. Vous le disiez
tout à l'heure. Du Grenelle de l'environnement.
Voilà. Et qui donc a évolué au fil du temps, évidemment.
On a fait évoluer le manifeste, le référentiel éco-quartier qui prend les questions de création de valeurs humaines, qui prend en compte la sobriété, qui prend en compte l'inclusion notamment, et pose de grandes questions. Et puis maintenant, on l'a outillé, c'est quand même la force, c'est de se dire que ce n'est pas simplement un label incitatif, c'est un label qui apporte aux élus locaux qui doivent être en première ligne, qui doivent porter cette démarche d'éco-quartier. On les outille avec les partenaires avec le CEREMA et le gouvernement qui finance un accompagnement technique avec des experts qui viennent accompagner les territoires et aussi un accompagnement financier, c'est tellement important, avec la Banque des Territoires qui est un acteur majeur maintenant du financement de ces éco-quartiers et qu'on soit dans l'incitatif et même avoir des prêts bonifiés parce qu'on rentre dans une démarche d'éco-quartier.
Ouais, vous avez raison, il faut toujours parler des partenaires avec lesquels on travaille. Maxence Moroteau, vous êtes sociologue urbaniste, je le disais tout à l'heure. Vous avez accompagné plusieurs projets de renouvellement urbain, notamment un éco-quartier à Miramas. Comment est-ce que vous aidez concrètement les territoires à concilier habitat et cohésion sociale, rénovation urbaine et transition écologique? vaste question.
Effectivement. Du coup, comment on les aide d'abord, j'allais dire, dans le cadre de missions d'accompagnement? On est souvent sur des postures, ce qu'on appelle d'assistants à maîtrise d'ouvrage, sur l'élaboration, puis le suivi de la mise en œuvre de projets de renouvellement urbain. Et effectivement, quand on y arrive, en intégrant la démarche éco-quartier dans cette logique de renouvellement urbain. Dans votre question, vous posez la question de concilier habitat et cohésion sociale et rénovation urbaine et transition écologique. Qui dit renouvellement urbain aujourd'hui, de fait, dit habitat. Hein, le premier axe des interventions en ANRU concerne le logement et l'habitat. Et malheureusement, souvent, on réduit cette approche du logement à la question des démolitions. Or, le renouvellement urbain, je crois que c'est pas ça, pas que ça, et surtout pas que ça, loin de là. Et effectivement, aujourd'hui, les doctrines évoluent un peu. C'est pour ça que, dans nos démarches, on essaye d'aborder les choses à partir du vécu des habitants. En se disant, la question du logement, elle est hyper importante, elle est fondamentale, elle renvoie à la question de l'intime. Mais au-delà, à partir du vécu des habitants, ça pose la question de leurs conditions de vie, de leurs moyens de se déplacer, de la condition de scolarisation de leurs enfants à l'école, etc. Et pour nous, un projet de renouvellement urbain, il doit faire levier sur l'ensemble de ces éléments-là. Mmh. Et du coup, de fait, on va, dans ce cas-là, aborder les enjeux de cohésion sociale, de vivre ensemble, d'émancipation, et au-delà, j'allais dire, de bien-être. Une deuxième singularité dans la manière d'aborder les projets sur lesquels on travaille, et ça rejoint un petit peu ce qui était dit à l'instant sur la démarche éco-quartier, et sur cette notion de démarche, on aime bien parler de processus. Et moi, j'ai un petit peu cette formule, ce leitmotiv de dire que si le modeste objectif que l'on se donne est de changer la vie des gens, d'améliorer la vie des gens, je pense que le processus est aussi important que la finalité du projet. Le processus est vraiment une de ses composantes, parce qu'on va mettre tout le monde en dialogue, en situation de mouvement, et on va réaliser le projet en le faisant, en mettant un petit peu tout le monde à la manette. Donc pour moi, il y a vraiment cette double approche, hein, entre d'un côté le vécu, une approche très systémique, et donc en même temps remettre au cœur de l'élaboration des projets la dimension lutte contre les inégalités. Hein, comment un projet de renouvellement urbain, en l'occurrence, mais j'allais dire n'importe quel projet urbain ou projet d'aménagement, n'est pas que quelque chose pour faire beau. Et je pense que c'est important de militer pour passer de la notion d'amélioration du cadre de vie à l'amélioration des conditions de vie. Et puis la deuxième, c'est cette question du processus et donc de la transparence, de l'implication de tous et d'accepter de faire un peu le saut vers l'inconnu. Et tout ça, je crois que ça permet de pousser très fort deux leviers. Moi, c'est l'expérience que j'en tire sur Miramas, mais que j'ai pu voir aussi sur d'autres projets sur lesquels on n'intervient pas. Donc, ouais, c'est pas que une posture que je défends. C'est que plus on arrive à articuler ces deux dimensions, plus on va pousser très loin le curseur de l'équité, j'allais dire, et de la lutte contre les inégalités dans les projets tels qu'ils se mettent en place. Et deuxièmement, le curseur de la qualité environnementale, aussi bien sous l'angle adaptation au changement climatique que biodiversité.
Florent Berco, quels apports très concrets finalement de la démarche éco-quartier vous voyez, vous, pour l'ensemble des projets de renouvellement urbain?
C'est un peu ce qui a été dit. Effectivement, c'est d'abord des questions à poser à ceux qui y vivent. Et c'est important, la dimension participative, de faire le projet urbain avec les habitants, qui est un défi. Hein. C'est pas simple de cette démocratie de participation, cette citoyenneté active à avoir. Mais c'est ce qu'on porte vraiment, la question de méthode, les questionnements. Est-ce qu'on se pose les bonnes questions? Est-ce qu'on vient y apporter les bonnes réponses? Et des réponses qui ne sont pas standardisées, même si on peut aller prendre les expériences maintenant dans le club Écoquartier, puisque c'est un réseau d'élus, d'experts de la fabrique de la ville qui se rencontrent régulièrement, et je crois que c'est important d'échanger les bonnes pratiques, notamment face aux grands défis qui sont devant nous, le défi démographique avec le vieillissement des populations, notamment le défi climatique, on en a parlé avec l'adaptation, c'est important, la question des déplacements qui était souvent pas traitée parce qu'on est à l'échelle du quartier, mais la question de comment on sort du quartier, comment on va travailler en dehors du quartier, il est très important, et la question des politiques publiques, on va dire au sens large, d'amélioration des conditions de vie, l'école, le travail, la sécurité ou les protections, c'est vraiment important. Donc ça, c'est d'abord la question de méthode qui est essentielle. Et ensuite, je vous l'ai dit, un réseau d'experts et d'élus qui échangent des bonnes pratiques à travers le club des élus de l'ANRU. Une labellisation qui ne se fait plus en différentes étapes, mais on est d'abord en stade d'éco-projet. Et on va petit à petit labelliser donc les quartiers livrés et vécus. Ça, c'est important. La labellisation devra vraiment quelque chose de fort. Et tous les partenaires du réseau Écoquartier, donc je pense notamment aux financeurs, Caisse des dépôts avec des prêts bonifiés améliorés. Je pense au CEREMA sur l'expertise d'ingénierie, parce que c'est des projets de très long terme et c'est pas facile d'articuler le court, moyen et le long terme. L'habitant, il a besoin demain que sa cage d'escalier soit rénovée, que l'espace public soit agréable à vivre et sécurisé pour ses enfants. Et pour nous, il faut 2, 3, 4, parfois 5 ans. Vous étiez depuis 2015 sur Miramas, mais on voit petit à petit le quartier se transformer, et c'est tant mieux. Il y a plein de bons exemples partout, que ce soit. Et c'est vraiment un domaine pour les petites comme pour les grandes villes, pour les quartiers. Mais axer la question d'éco-quartier aussi aux quartiers prioritaires me semble essentiel. C'est d'abord par les quartiers les plus fragiles, les plus vulnérables, qu'il faut commencer, il faut donner le meilleur de la ville.
Alors on parle de Miramas, on parlera tout à l'heure aussi un petit peu de Laval, hein, pourquoi pas, bien sûr, bien entendu. Maxence Morteau, vous intéressez notamment à la question évidemment sociale dans le projet urbain. Comment est-ce qu'on parvient tout simplement à améliorer la vie des habitants de ces quartiers ?
Ben, je vais rebondir un petit peu sur ce que je répondais à votre première question. Bon, il y a vraiment ce sujet de passer de cette notion de cadre de vie à conditions de vie, avec cette ambition de faire des projets, des leviers pour lutter contre les inégalités. C'était la petite singularité du projet sur Miramas. Le choix de l'équipe avait été de dire, tiens, si on prenait un sociologue pour piloter un projet de renouvellement urbain. C'était une première, je ne suis pas sûr qu'il y en ait eu d'autres depuis. Et en plus de dire, en plus on va demander à ce sociologue de s'engager dans une démarche éco-quartier. Alors ça tombe bien parce que j'avais une formation initiale d'ingénieur en environnement. Donc c'est des sujets qui me sont chers. Mais du coup, ça posait un peu le débat. Mettre la question sociale au cœur, c'est d'abord, j'allais dire, une manière d'appréhender les choses. C'est-à-dire, si on essaye de se projeter un peu, malheureusement, si on est lucide, on sait que dans les 50 prochaines années, la situation va être compliquée, très dure. Réchauffement climatique, risque de crise alimentaire, risque de crise économique. Et on sait aussi que c'est les plus vulnérables qui vont prendre cher les premiers, qui vont souffrir le plus, et qui pour autant sont ceux qui contribuent le moins au dérèglement climatique. Donc en soi, c'est déjà une question d'équité sociale. Et derrière, par rapport à ça, c'est effectivement cette importance d'avoir une vision très systémique des projets et d'identifier l'ensemble des objets sur lesquels on va pouvoir faire levier. Et en ce sens, je trouve que la démarche Écoquartier, elle est extrêmement riche pour ça, parce qu'elle propose une approche qui va interpeller les modalités de gouvernance et les modalités d'implication de l'ensemble des parties prenantes, le cadre démocratique, le questionnement du contexte social, urbain, environnemental. Et donc dans la démarche Écoquartier cette dimension très systémique et qui, je crois, nous guide vraiment nos projets. Donc il y a vraiment pour moi cette nécessité de penser impact sur les différents sociaux, sur les différents sujets sociaux, quand on pense le projet. Comment est-ce qu'on peut lutter contre les inégalités scolaires, sur les inégalités vis-à-vis des déplacements, de l'emploi. Et puis peut-être je voulais faire une petite référence à la question de la santé, parce que ce projet, on est engagé également dans une démarche d'urbanisme favorable à la santé, et qui est venu finalement s'emboîter de manière assez optimale avec la démarche écoquartier. Donc on a eu la chance d'être accompagné en plus par les équipes de l'École des hautes études en santé publique de Rennes, qui sont à l'origine, j'allais dire, de ce référentiel urbanisme favorable à la santé. Et du coup, ça a permis d'affiner cette dimension impact, c'est-à-dire quand à un moment donné, on met en place une stratégie de végétalisation assez intense sur les espaces publics. Bien sûr, il y a un enjeu de lutte contre les îlots de chaleur urbains. Il y a des enjeux d'amélioration de la qualité de l'air. Mais derrière, on va aller identifier jusqu'aux impacts sur la santé qui vont être très parlants pour les habitants quand, à un moment donné, et y compris pour les partenaires, et je pense aux bailleurs sociaux puisqu'on est aujourd'hui au congrès, quand, à un moment donné, on prend conscience que si on végétalise en plus tant de mètres carrés que l'on transforme en espace vert, végétalisé, le plus dense possible, on va réduire de tant de pourcents la survenue d'épisodes maniaques chez les personnes qui souffrent de troubles bipolaires. Quand les bailleurs sociaux qui sont confrontés de manière hyper forte à ces sujets de santé mentale, forcément ça parle. Mais ça parle aussi aux habitants quand on leur dit ben, on va végétaliser. C'est certes pour faire beau, c'est certes pour rafraîchir, mais on va aussi réduire la mortalité chez les plus de 65 ans. Donc c'est voilà, tous ces leviers-là et qui viennent vraiment s'emboîter et qui voilà, incarnent vraiment pour moi cette approche systémique de la démarche écoquartier dans laquelle on a essayé de s'inscrire sur Miramas.
Et la démarche écoquartier aussi, ce qui est intéressant, c'est finalement la co-construction et de voir de quelle manière finalement les habitants qui vont être concernés s'approprient aussi le projet tout simplement. À Miramas, ça s'est fait comment ? Comment ils se sont appropriés ça justement ?
Alors ils se sont appropriés fortement, voire très fortement. Après, c'est des choses qui prennent du temps. Sur cette question, moi, je pense qu'il y a déjà d'abord trois conditions qui sont nécessaires et qui sont préalables. La première, c'est la commande publique et donc la volonté politique. C'est d'avoir un vrai engagement de la part des équipes locales, de dire ben, on souhaite y aller. La deuxième, c'est la dimension confiance et transparence. Et à tous les niveaux, hein, je dis souvent que sur Miramas, on a eu un petit alignement de planètes entre des équipes politiques, des équipes techniques, villes et métropoles, et nous, en tant qu'assistants à maîtrise d'ouvrage, il y a un moment, c'était ben, « allez-y, go, proposez-nous des choses en termes de méthode, on vous fait confiance, à tous les niveaux. » Et on est transparent, et tout peut être dit. Il n'y a pas de tabou. Et clairement, pour moi, c'est une vraie condition. Et puis, la dernière condition, c'est aussi accepter de sauter dans l'inconnu. Bien souvent, et après, on peut le comprendre en tant qu'élu local, de se dire, bah ouais, mais si les gens ils nous demandent des trucs de fou, comment on va faire ? En fait, ce que l'on s'aperçoit, c'est qu'à partir du moment où on partage bien les règles du jeu, y compris des fois sur des sujets qui peuvent paraître compliqués, hein, on a été jusqu'à développer un montage d'opération, comment on équilibre l'opération, donc pourquoi il faut vendre du foncier à des opérateurs pour financer le projet d'espace public ou la construction d'une nouvelle école. Donc c'est accepter un peu de partir de manière, pas forcément stabilisée. Ça peut impliquer de se former aussi. Alors pour le coup, et là ce serait un petit clin d'œil aux collègues de l'école du renouvellement urbain qui sont sur un stand pas très loin. On est en train de... Il y a tout un module de formation d'habitants. Mais derrière, on développe aussi des modules à destination des techniciens et derrière à destination des élus, parce que finalement, ce que nous disent beaucoup d'habitants, c'est mais c'est important que les techniciens auxquels on est confrontés et les élus soient aussi formés à ces démarches de co-construction, que ça les rassure et qu'ils aient moins peur. Donc à partir de ça, on a déroulé toute une méthode sur toute la phase d'élaboration en mode 100% collaboratif, je vais dire de A à Z, c'est-à-dire qu'on a commencé une logique de diagnostic partagé, collaboratif, sur les espaces publics, sur les conditions de logement et d'habitat, sur les services publics, sur les mobilités, sur le tout en atelier. Alors au début, je ne vous cache pas, ben, on était 10, 15. Après, une des conditions de réussite, ça a été aussi d'organiser un retour régulier et rapide aux habitants. C'est-à-dire qu'on faisait un atelier, la semaine d'après, il y avait un livret de 20 pages qui donnait la synthèse et pareil, en mode transparence. Voilà ce que vous avez dit. Voilà comment on l'a analysé et voilà ce qu'on va en faire. Et ici aussi, la collectivité a joué le jeu hein, en éditant ces petits livrets de chacun 16 ou 20 pages, distribués dans l'ensemble des boîtes aux lettres. Derrière, on a poursuivi en mode prospective. Donc on a fait un exercice de prospective territoriale à l'échelle du quartier en se disant le quartier idéal dans 50 ans, c'est quoi ? Par contre, attention, c'est clair que c'est pas ce qu'on va faire, mais si on veut savoir où on va, il faut se donner une ligne directrice. Et donc on a enchaîné aussi les ateliers comme ça sur la prospective. Et puis derrière, on s'est mis en mode vraiment, programmation urbaine. Une fois qu'on avait posé le diagnostic, puis posé la ligne directrice et donc la prospective, et bien on est arrivé avec des maquettes du quartier imprimées en 3D, où tous les bâtiments pouvaient être bougés. Et on s'est dit, on part de là, on veut aller là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et on a testé, on a joué. Alors, idéalement, je disais, on avait 5 maquettes. On se disait à chaque fois, à la fin de chaque atelier, on va peut-être converger vers une maquette. Mmh. Dans les faits, non. Du coup, on s'est retrouvé avec 15 maquettes à la fin. Et là, c'est nos copains urbanistes, architectes qui étaient dans le groupement, l'équipe Jornet Leo Pastor, qui sont des Barcelonais, qui nous ont dit il faut être scientifique si on veut s'en sortir. Et donc, ils ont mis les maquettes dans des tableaux Excel. Puis on s'est dit, sur chaque bâtiment, chaque opération, chaque rue, qu'ont dit ces ateliers collaboratifs ? Ça, on démolit. Ça, sur 15 maquettes, il y en a 8 qui disent on démolit. Ça, et ainsi de suite. Et on a construit le projet comme ça. Et après, on a ajusté les choses avant d'aller sur des ateliers de finalisation de projet, où donc on a présenté les scénarios, les hypothèses, et qu'on a remis en débat. Qu'est-ce qui vous inquiète ? Qu'est-ce qui vous réjouit ? Comment on pourrait aller plus loin ? Et ainsi de suite, toujours. Donc ça, c'est vraiment la méthode sur l'élaboration du projet. Derrière, il y a la suite. Il y a comment on s'assure que ce n'était pas juste un coup sur l'élaboration du projet. Et donc derrière, on a cranté sur tous les cahiers de maîtrise d'œuvre de l'ensemble des prestataires, donc le maître d'œuvre espace public, donc le paysagiste, avait une obligation d'avoir une expertise en co-construction sur toute l'élaboration, puis la mise en œuvre, puis les chantiers. Pareil sur pour les différents bailleurs sociaux avec leurs prestataires sur leur réhab, sur leur résidentialisation, etc. Et du coup, on met en place tout ce système de dérouler, de poursuivre ce qui a été engagé, et avec en plus une logique un petit peu d'accompagnement et donc de préfiguration avec un certain nombre d'outils qui, pour certains, commencent à beaucoup se développer, type urbanisme transitoire, mais avec cette idée de pas être dans de l'urbanisme transitoire pour dire l'enjeu c'est de faire patienter. Là, on est vraiment, et là je reprendrai une formule, j'aime bien un néologisme de mes collègues d'AREP, programmation.
Rapidement.
C'est le sujet, c'est faire du prévisoire. Donc comment est-ce qu'on vient tester des choses pour en même temps commencer à donner envie, amorcer le changement et tester des choses, et donc commencer à évaluer est-ce qu'on va dans la bonne direction, etc. Voilà, je suis désolé, j'étais un peu long.
Non, mais en même temps, c'est passionnant. Et puis, il y a ce retour d'expérience et qu'il faut faire partager. Vous le faites très bien. Monsieur le maire, à Laval, justement, quand est-ce que vous aussi, vous associez vos habitants dans vos différentes démarches, et notamment ce qui concerne les éco-quartiers ?
Je salue déjà la démarche de Miramas, effectivement, qui rappelle que le premier facteur de résilience, on le dit assez peu, ce sont les humains. C'est pour ça que la démolition, effectivement, peut être questionnée d'un point de vue humain. Parce que ce qui fait la solidarité dans les quartiers et le fait qu'on va, par exemple, face à une vague de chaleur, mieux s'en sortir dans les quartiers populaires qu'ailleurs, malgré qu'on soit fortement confronté, c'est parce que le voisin va prendre soin de la personne un peu plus âgée et lui dire « mais c'est important que tu sortes et que tu prennes ton verre d'eau ». Et c'est important de ne pas casser ces réseaux de solidarité, on y est très fort. Donc, fort de ce facteur humain qui est quand même source, normalement, de résilience et de protection des populations, nous on s'est dit comment on peut redonner la juste parole aux habitants. C'est d'abord pour eux et avec eux qu'on va le faire. C'est très dur. Mais il y a des très beaux outils comme les jurys citoyens qui existent. On a été un peu plus loin. On s'est inspiré de la Convention citoyenne pour le climat qui avait été organisée par le CESE. Et on a pris les règles du jeu de la Convention citoyenne et on l'a appliqué au quartier populaire. Se dire, une question qui est posée aux Lavallois tirés au sort, c'est comment améliorer la vie au quotidien dans les quartiers populaires pour mieux choisir sa vie. Finalement, de partir de comment on sécurise son parcours de vie individuel pour t'émanciper dans un collectif, dans un quartier, dans une ville. Donc la méthode, elle est simple, d'une convention citoyenne. On tire au sort donc 50 Lavallois, une majorité issue des quartiers populaires, mais pas que, pour dire que la question des quartiers populaires doit intéresser tous les habitants de la ville. Ensuite, on les a fait travailler pendant 3 week-ends à l'hôtel de ville de Laval. Évidemment, on les a indemnisés comme les jurés d'assises. On a levé tous les freins à la participation. On a gardé les enfants quand il le fallait. Et on a pu déplacer les personnes qui avaient besoin de covoiturage. De ces trois week-ends, en est sorti un manifeste avec 7 principes d'action qui rappellent le besoin d'avoir une méthode claire. Communiquons, écoutez-nous, l'équité, enfin des grands principes de bon sens. C'est tellement important de le rappeler à l'heure où le débat public peut être un peu chahuté. Et 25 propositions et 137 actions avec des choses tellement importantes mais et à la fois simples. Des questions de parentalité, des questions de comment mieux réussir à l'école, des questions évidemment de sécurité qui reviennent et beaucoup d'humanisation finalement des politiques publiques qui sont demandées. Et la suite, ils ont restitué devant la conférence des parties prenantes, et c'est tout l'intérêt de la convention citoyenne, c'est de se dire comment on remet en haut de l'agenda politique la question des quartiers populaires. Et on s'y intéresse très concrètement. Et là, on a 50 citoyens qui nous attendent au tournant. Et on ne le fera pas seul, puisque la fabrique de la ville, la fabrique du quartier, la fabrique du vivre ensemble ne se fait pas qu'avec le maire et ses élus et son administration. Donc c'est le département, la région, l'État, l'État dans toutes ses dimensions, commissaire, justice, et les partenaires sociaux à travers notamment la CAF. Maintenant, tous ces acteurs-là sont un peu obligés par ce rendu. Et petit à petit, on va établir un plan d'action et mettre en œuvre ces actions dans les prochains mois, les prochaines années, et rendre compte aux citoyens. Je crois que c'est vraiment une très belle manière d'associer les citoyens. Et il faut multiplier. C'est une expérience, là, un temps donné, mais qui peut être source d'inspiration, tout comme intégrer des sociologues dans des démarches d'urbanisme, c'est essentiel. Et je crois que là, ça y est, on a plein de méthodes qui fonctionnent. Maintenant, il faut que ça fasse des petits, que ça inspire. Et la fabrique écologique de nos quartiers populaires, c'est la fabrique du bon sens. Je retiens ce qui a été dit. Là, on va former des jeunes avec Banlieue et Climat, un peu à l'image de l'école de la rénovation urbaine. Banlieue et Climat, qui est une association qui vise à former des jeunes et sensibiliser à la question climatique dans les quartiers. Et c'est important, c'est de gagner la bataille culturelle aussi. Et chaque chantier, chaque grue qui est déposée à Laval, on associe les jeunes, les résidents du quartier. On leur explique, si on rénove l'école, ça a du sens, ça va améliorer vos conditions de vie et de scolarisation, mais ça a du sens pour préserver la planète, parce que il y a des murs en paille, on rénove, il y a moins de dépenses énergétiques. C'est bon sens, mais c'est important de leur dire.
Oui, vous avez raison, une vraie démarche participative.
Et de formation.
Et de formation, et c'est important de le souligner. Hélène, avant qu'on ne se quitte, peut-être je me retourne vers vous pour voir si on a une ou deux questions à poser. On a encore un petit peu de temps, alors on en profite.
Alors, on a une première question. Comment on peut démultiplier les écoquartiers? Est-ce qu'il y a déjà peut-être des partenariats avec des associations de maires ou d'autres démarches engagées?
Oui, alors on a signé des conventions avec toutes les associations d'élus, de l'Association des maires de France à l'Association Ville de France des villes à taille intermédiaire, là où la moitié des Français vivent, comme Laval par exemple, et puis évidemment France Urbaine. Donc on a tous les partenaires institutionnels, et c'est très important de se dire que l'écoquartier, c'est un outil, un label, une démarche d'abord à la main des élus. C'est bien eux qui sont élus comme représentants pour faire avancer leur ville, leur quartier. C'est adapté aux petites comme aux grandes communes, à l'échelle évidemment du plus petit dénominateur commun, la rue, le quartier. Et c'est important de s'en emparer. Et quand on rentre dans cette démarche-là, dans ce club des écoquartiers, je crois qu'on ne voit pas la ville autrement. Et on se dit, pourquoi je ne l'ai pas connu plus tôt et j'aurais peut-être fait moins d'erreurs. Et je pense que les habitants vivraient mieux. Et c'est important de dire, ne pas avoir peur de dire, c'est un truc pour bobo écolo. Non, je crois qu'à chaque habitant à qui on montre une image d'un écoquartier et une image d'un quartier existant, tout le monde veut vivre dans l'image de l'écoquartier. Je crois que c'est important aussi de gagner la bataille du récit, de dire que c'est là où on veut vivre, par l'image. Ça, on y est très attentif.
Alors, justement, comment on peut convaincre un élu d'une commune rurale, par exemple, qui hésite peut-être à rentrer dans une démarche écoquartier? Quels bénéfices concrets pour une petite commune qui hésite à adhérer au programme?
La première recommandation, c'est d'aller voir les maires qui en ont bénéficié. Je pense à la maire de Vologne qui a fait un très beau projet, petite commune dans le sud de la France et qui est une réussite, qui a réussi à embarquer toute la population. C'est l'avantage des petites communes, c'est qu'on peut plus facilement aller chercher la population en porte-à-porte, et donc c'est de nombreuses personnes qui ont participé à la démarche effectivement de co-construction du projet. Ça va plus vite. Et pourquoi les plus petites communes ou les territoires ruraux seraient abandonnés dans la fabrique de la ville écologique? C'est au contraire, parce que les premières victimes, ça va être eux, à travers l'acidification des terres, à travers la destruction du paysage. Au contraire, c'est une manière justement de se poser des bonnes questions et de se dire que eux aussi Ils ont leur méthode à développer. Il ne faut pas faire du copier-coller de territoire métropolitain. Ce ne sont pas les mêmes recettes qu'on va appliquer dans les petites communes, dans les moyennes communes, dans les grandes communes. Bien au contraire, il y a un chemin à voir. Moi, je viens d'un territoire mi-urbain, mi-rural. On voit bien que je ne peux pas faire comme à Montpellier ici, la gratuité de transport public du jour au lendemain. Il va falloir se creuser un peu plus les méninges pour questionner cette gratuité et ces déplacements.
Maxence Morteau, rapidement.
Oui, je voulais juste rajouter un élément sur cette dimension conviction. C'est peut-être rassurer sur le fait que la démarche éco-quartier, c'est pas un truc hyper technologique. Alors, ça a été un petit peu dit en filigrane, mais je pense que c'est important de réinsister dessus. C'est bien le sujet, c'est d'abord de la mise en dialogue, du bon sens, de faire bien, de faire sobre. Et bien souvent, ça veut dire de faire moins cher. Donc je pense que c'est aussi important de dire attention, faire un éco-quartier, c'est pas un truc qui va coûter un bras. Et aujourd'hui, voilà, d'être un peu vigilant sur les solutions, sur ce qu'on appelle le techno-push ou tous ces trucs-là. Et je crois que l'éco-quartier, c'est tout sauf ça. Et je pense que c'est un message qui peut aussi rassurer des élus de petites communes en milieu rural, mais aussi des petites communes en milieu urbain, de se dire, mais à un moment donné, non. On n'est pas sur une approche hyper techno, etc. C'est d'abord se poser ensemble pour réfléchir à un avenir meilleur pour nos territoires dans un contexte de changement climatique.
On est au congrès de l'USH, c'est aussi d'avoir des acteurs du logement social pour venir dans les communes rurales. C'est tellement
évidemment
important. Le droit au logement, il est aussi dans les communes rurales et c'est important de leur apporter des solutions.
Adaptées. Évidemment. Un grand merci à tous les deux d'être venus témoigner sur ce plateau. Merci également à vous de votre fidélité. Nous sommes en direct de cette 84e édition sur Radio Territoria toute la journée encore et on va se retrouver tout à l'heure à 16h ici même sur le stand du gouvernement et on parlera avec nos invités des outils de territorialisation de la politique du logement avec les fameux zonages. Vaste sujet là également. Merci de votre fidélité et à très vite.
Vivez le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.